RCF.
Grand Angle, bonjour. Les images nous montrent-elles la vérité ? Bien, c'est le thème de l'émission aujourd'hui, préparée en partenariat avec la revue des ados, Okapi. Nous sommes tous soumis à la force des images, photos de presse, mais aussi images qui se succèdent sur tous nos écrans. Nos pupilles sont bombardées d'images et de clichés. Et ceci, les photos circulent à grande vitesse sur les réseaux. Mais ne sont-elles pas parfois trafiquées ? Sont-elles toujours le reflet de la vérité ? Eh bien, c'est le sujet aujourd'hui. Nous en parlons avec mes invités en studio. Estelle Varin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la rédaction d'Okapi. C'est vous qui avez écrit ce dossier qui paraît ces jours-ci. Les photos disent-elles la vérité ? Eh bien, 5 doubles pages avec des photos qui nous en mettent plein la vue. On va en parler. Pierre Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe de presse, aussi bien reporter que pour des reportages que des portraits à Paris, en France comme à l'étranger. Votre travail est remarqué notamment en Haïti, en Serbie. Vous intervenez aussi auprès de jeunes pour décrypter les images, c'est bien ça ?
C'est ça.
Jérémy Pelletier va nous rejoindre. Il est directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Depuis 2 ans, il mène des travaux autour du complotisme et à l'heure des fausses informations. Comment distinguer le vrai du faux ? Comment les théories du complot peuvent-elles aussi se développer par l'image ? Luc Rérol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service photo de l'hebdomadaire Pèlerin. Comment choisir une photo ? Quelles sont les garanties d'authenticité des productions que l'on vous présente ? Qu'est-ce qu'une photo de presse ? Eh bien, on va en parler pendant l'émission. Les images nous montrent-elles la vérité ? C'est le thème du jour de Grand Angle. C'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Traditionnellement, l'émission commence simplement à savoir mais pourquoi, comment vous avez fait pour choisir ce sujet, Estelle Varin ?
Ben, c'est un sujet qui est très important pour nous parce que d'abord, les photos dans les journaux, ben, c'est vraiment un support d'information immense. Et puis par rapport à Okapi, qui est le journal de référence pour les collégiens, le rapport à l'image pour les adolescents, il est absolument essentiel. Il est absolument essentiel parce que elles sont omniprésentes sur les réseaux sociaux, que nous, en tant que journal citoyen, on est là évidemment pour distraire, informer nos lecteurs, mais on est aussi là pour les éduquer à une bonne lecture des journaux et à en faire aussi les lecteurs de demain, de la presse de demain. Et ce rapport à l'image, il est à la fois passionnant, complexe. Je pense que si on interrogeait la plupart de nos ados lecteurs et qu'on leur demandait quel est le métier que vous voudriez faire plus tard, dans le top 10, il y aurait le métier de photographe qui est toujours extrêmement prisé chez les jeunes. Voilà, c'est pour toutes ces raisons. Et puis évidemment, cette semaine, donc du 18 au 23 mars, c'est la semaine de la presse dans l'école où on est toujours très présent. C'est un moment important pour nous parce qu'on va voir les ados dans les collèges. On leur parle de journaux, on leur parle de presse, on leur parle d'informations, on leur parle forcément d'images et on a des discussions avec eux qui sont très très étonnantes sur le regard effectivement qu'ils portent sur l'image en général. Qu'est-ce que c'est qu'une image de presse ? Qu'est-ce que c'est qu'une image qui informe ? Qu'est-ce que c'est qu'une image sourcée ? La plupart des jeunes aujourd'hui ne savent pas du tout que les images qui sont publiées dans les journaux, qui sont montrées ou les vidéos qui sont montrées dans les médias sont des images qui ont été réalisées par des professionnels de la photographie ou de l'image. Ce sont des images qui sont signées, qui sont sourcées. On sait quand elles ont été réalisées, on le sait où elles ont été réalisées. C'est ça la garantie de l'information. Et comme eux, ils ont un rapport aux réseaux sociaux qui est assez spontané et évident, il faut leur dire, parce que c'est pas du tout évident pour eux, que non, dans les journaux, on ne va pas chercher sur Internet, on ne pique pas une photo pour illustrer. Non, c'est pas ça le métier d'icono, c'est pas ça le métier de photographe, c'est pas ça le métier de journaliste. Elles sont choisies, elles sont achetées, on sait qui les a réalisées, parce que sinon, il n'y a aucune garantie de l'authenticité du fait qui est représenté et qui est publié dans les pages.
Est-ce que les ados ont conscience que c'est par la photo, bien souvent, qu'ils reçoivent de l'information, ou simplement c'est les images qui se succèdent les unes après les autres?
Oui, ils ont un rapport à l'image qui est très très évident, très 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 évident. nous on sait bien que dans les pages d'Okapi, le lecteur il rentre d'abord par l'image, par l'illustration, que ce soit une illustration de presse ou que ce soit une image, c'est d'abord par l'image qu'il entrera dans le sujet bien avant d'arriver au texte. Hein.
Alors comment vous faites ? Il faut des images choc ou au contraire des images qui informent ? Enfin, et puis il y a plusieurs rubriques dans Okapi.
Ah oui,
il y a des photos qui sont moins de l'information peut-être.
Il y a des images comme dans tous les journaux qui sont à la fois informatives, d'autres qui sont illustratives, d'autres qui sont là pour accrocher. Enfin, tout le panel, hein, je veux dire, où le spectre des images de presse et des illustrations sont présents dans le journal comme dans tous les autres titres, mais on sait que pour nous, enfin, quand on fabrique le journal quinzaine après quinzaine, le rapport texte-image, il est absolument essentiel parce que notre lecteur, il entrera dans la séquence par l'image avant de lire le texte. Ça, c'est certain.
Vous avez choisi dans votre dossier, hein, cette photo où on voit, j'ai envie de dire, deux Marianne, hein, une manifestante déguisée, effectivement, avec le bonnet phrygien, et puis en face d'elle, une gendarme. Cette photo, on l'a tous vue, ou presque, hein, je pense.
Ouais, elle a beaucoup circulé.
Valérie H, le photographe, l'a réalisée. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, justement, que c'est ce type de photo, hein, qui permet de comprendre ce que c'est que le photojournalisme?
Oui, parce qu'en fait, c'est une image qui est extraordinairement étonnante. C'était important pour nous d'avoir donc dans la deuxième page de ce dossier de décrypter une image comme ça, qui était une image de presse qui avait fait beaucoup parler d'elle, qui avait beaucoup circulé, que les enfants ont vu, parce que on voulait vraiment parler du regard d'un photographe, c'est-à-dire que une photo de presse, c'est effectivement une photo très, enfin, Luc et Pierre y reviendront dans les minutes qui viennent, mais c'est une image qui est forcément extrêmement simple, lisible, immédiate, etc. Mais de temps en temps, il arrive dans une carrière de photographe de réaliser un cliché qui va faire la différence, où on voit bien que la personne qui est derrière l'appareil a vu quelque chose que vous, moi, nous n'aurions pas vu forcément. Il a repéré, il a attrapé l'instant. Il a fait un cliché, et ce cliché, c'est comme tous les clichés qui sont... Alors, certains sont plus historiques que d'autres, certains resteront. Mais on sait bien que, par exemple, la photo de, je sais pas, Daniel Cohn-Bendit devant la Sorbonne par Gilles Caron, elle a marqué une époque.
Il y a l'événement, mais il y a aussi la photo.
Voilà, il y a vraiment le regard du photographe qui voit quelque chose que les autres n'auront pas vu, qui le devine quelquefois aussi, qui voit la scène arriver, qui arrive à la capturer. Et puis cette scène, elle a été réalisée en décembre pendant les manifestations des Gilets jaunes, qui a été quand même la grande actualité de ces derniers mois. Et elle montre effectivement une gendarme et une jeune femme déguisée en Marianne. Et la photo, elle est très très étonnante, elle dit quelque chose, et ensuite elle a à la fois changé elle a marqué une date dans la carrière du photographe, ça c'est certain. Et puis surtout, une fois que cette photo est faite et qu'elle circule, elle n'a appartient plus au photographe. Après, c'est le public qui se l'approprie.
Ça
devient une icône, et tout le monde voit dans cette image ce qu'il a envie d'y voir, et c'est ça qui est étonnant dans la photo, quoi. L'histoire que la photo va vivre après, toute seule, entre le public et
l'histoire
et
qu'elle
et
raconte,
le support,
et l'histoire même de la photo. Pierre Morel, quand on prend une photo de ce genre-là, une photo qui devient emblématique, on s'en rend compte quand vous êtes en reportage, vous vous rendez compte que là, tiens, il y a quelque chose qui se passe.
Alors, dans le processus de travail, il est clair que quand on cherche à représenter la réalité, puisque c'est le sens du métier photojournalisme, c'est à la fois faire de la photographie et du journalisme, donc c'est représenter la réalité par la méthode journalistique en photographie, on va chercher à raconter des histoires, à montrer ce qui se passe, et aussi dans des cas, dans ce qu'on appelle de la photographie d'actualité, ce qui est ce cas-là, avec des situations extrêmement fortes, c'est vrai que le regard du photographe, classiquement, va aller vers des constructions iconiques, vers des personnes fortes, vers des personnages qui puissent incarner un peu l'enjeu de l'événement. Et c'est très évident dans cette photographie-là, qui correspond au mouvement sur les gilets jaunes, où il y a eu beaucoup d'affrontements. Et c'est vrai qu'en tant que photographe, le photographe va essayer d'aller chercher ce qui transcrit, retranscrit l'événement donné. Donc ça, c'est quelque chose alors qu'on a par la culture visuelle qu'on apprend en tant que photographe, par aussi toute la culture collective qu'il y a, puisque beaucoup de photographies iconiques souvent font penser à des tableaux de la peinture classique, etc. Et donc, des fois, on poursuit cette histoire. Mais c'est aussi intéressant, puisqu'il y a d'autres photographes qui vont essayer, sur un même événement, de raconter autrement leur vérité, d'aller vers d'autres types d'images qui ont peut-être n'ont pas toujours la même histoire virale. Donc, sur place, on ne se rend pas tout de suite compte. Comme l'a très bien dit Estelle, une photo ne vit pas toute seule. Une fois qu'elle est prise, elle va vivre par le regard des personnes, par la médiation qui sera faite par la rédaction ou par le partage qui sera fait par les internautes notamment. Et c'est eux qui vont lui donner sa viralité, sa fonction iconique, la détourner aussi, la transformer. C'est intéressant. C'est là qu'on sait que notre photo, elle dépasse son cadre. La photo en question, par exemple, je l'ai vue récemment sur un mur de Paris, retranscrite sous forme de fresque. Donc ça montre qu'elle a vraiment un potentiel symbolique.
Mais là, il faut aussi un coup de bol, il faut de la chance, il faut être au bon endroit au bon moment.
Il faut aussi la bonne diffusion, puisque voilà, techniquement, cette photo a été prise par l'AFP, l'agence France Presse, qui est la plus grande agence française, et qui distribue ces images dans le monde entier de manière très très rapide. Donc elle a aussi été vue parce que le photographe a cette chance-là de travailler pour l'AFP, et du coup d'avoir une viralité très forte. La photo a beaucoup tourné parce que l'AFP l'a partagée. D'autres photographes, des fois, ils étaient d'ailleurs plusieurs sur cette scène-là, mais pas avoir le même réseau de diffusion, donc pas avoir forcément la même viralité. Donc il y en a une qui va des fois prendre le dessus. Donc oui, il y a un peu de coup de bol, il y a aussi des raisons contextuelles. Aujourd'hui, Internet permet aussi à des photographes amateurs ou à des photographes qui n'ont pas de grandes agences, s'ils ont une photo très forte, de la partager, de se faire connaître. C'est arrivé notamment à Martin Arrigo, le soir du 11 janvier 2015, il avait photographié une manifestation, une photo assez célèbre, la manifestation du 11 janvier, une photo verticale en pleine nuit.
Après les attentats.
Voilà, ça rappelait les tableaux de Delacroix, donc très très iconique, avec des lumières partout, le drapeau français. Il l'a partagé d'abord sur Facebook, il est photographe professionnel. Elle a eu plus de 20 000 partages, je crois, et c'est ensuite qu'elle a été repérée par les journaux. Il a fait la couverture de l'Observateur et d'autres journaux. Donc des fois, voilà, le processus, c'est vrai que le chemin de l'image aujourd'hui peut passer par les réseaux sociaux, qui va valider une certaine viralité.
Alors ça, c'est la photo d'actu. Pour le coup, il faut être sur l'événement. Vous travaillez aussi sur des photos portraits cette fois-ci. C'est un autre travail, il faut composer la photo, on essaie de trouver une manière de mettre la personne en valeur. Comment vous procédez ?
Effectivement, dans ce débat, ce qui est important, et c'est vrai que souvent quand on pense photojournalisme, on pense image unique. Le photojournaliste, quand il travaille, il ne va pas faire tout son processus, en tout cas quand il est dans le reportage, dans le magazine, il ne va pas être juste de faire une seule image de l'événement, puisque déjà ça ne retranscrit pas tout. Donc il va chercher à faire plusieurs images, à raconter une histoire. Et il peut inclure ou avoir comme commande que de faire un portrait. Donc c'est une rencontre avec une personne, plusieurs personnes aussi. Ça peut être une série de portraits qui racontent la situation d'une population donnée, etc. Et donc là, on est ce qu'on peut appeler dans une photo un peu plus documentaire, posée. On se base sur le réel, mais c'est vrai qu'il y a une intervention un peu plus importante du photographe dans la direction du modèle du sujet, en tout cas. Donc ça peut être l'inscrire dans un décor, dans une situation qui correspond à sa vie. Ça peut être tout simplement prendre un boulanger dans sa boulangerie au travail, ou alors si on veut raconter sa vie personnelle, le prendre en photo chez lui. Et là, après, c'est tout le travail du photographe et du regard qu'on va porter sur la personne pour essayer d'avoir une part de vérité. Et tout ce travail se fait aussi en corrélation, quand on est photojournaliste, avec le journal pour lequel on va travailler. Donc moi, avant chaque commande, chaque portrait ou reportage, je sais que je vais pas faire le même portrait de la même personne en fonction que si je travaille pour la dernière page de Libération, par exemple, la page portrait, ou pour Okapi. Les intentions graphiques, esthétiques ou de sujet vont être différentes. Du coup, ça va faire ma démarche photographique va pas être la même. Je vais pas aller sur le même type de pose, etc. Les mêmes effets de style aussi. Voilà, donc il y a un travail de médiation qui correspond à la ligne éditoriale d'un journal. Chaque journal, je pense que Luc Rérol pourra en parler mieux, a sa politique photo.
Voilà, tout dépend encore là aussi de la diffusion. Luc Rérol, vous passez commande donc pour les photos. Alors à la fois vous passez commande, puis vous avez aussi ces photos d'actualité, puisque chaque semaine il faut choisir une photo qui va claquer sur une double page. Alors la photo d'actu, comment déjà on est à la fois vigilant. Bon, on sait, il y a des agences de photos qui vous proposent des photos.
Oui.
Comment on fait le tri, parce que on le disait tout à l'heure, on est déjà nous assaillis par les images. Vous-même, vous devez être. Alors, aussi
C'est effectivement un peu le défi qu'on relève chaque semaine dans le cadre de l'hebdomadaire, puisque chaque semaine, on doit publier une photo dite de la semaine qu'on choisit le lundi matin. Et c'est vrai que les années passent et plus ça va, plus on est dans un choix au milieu de milliers de photos. C'est plus le temps passe, oui, plus il y a une profusion de photos. Et c'est vrai que selon les événements, on peut être maintenant quand on est dans la presse, ça arrive qu'on soit plus facilement presque à la remorque maintenant des réseaux sociaux qui ont une instantanéité pour repérer certaines photos, notamment l'exemple des Mariannes, c'est le bon exemple, puisque avant même que les journaux soient en marche, que ça soit les quotidiens et a fortiori les hebdomadaires, elle avait déjà été partagée des milliers de fois et vue.
Ça veut dire qu'on cherche plus l'exclusivité sur la photo d'actu.
L'exclusivité, c'est très difficile puisque de toute façon maintenant on regarde tous les mêmes sources, notamment de l'agence France Presse, de l'agence Reuters et ainsi de suite. Donc tous les journaux ont accès à ces mêmes bases, à ces photos. Donc après le choix, il se fait plus en fonction de la ligne éditoriale du journal, de quel événement on va vouloir privilégier et à travers chaque événement, quel type de photo on va vouloir mettre en avant.
C'est à la commande sur les reportages que là pour le coup vous avez une intervention forte sur le résultat qui va être proposé.
Oui, parce que enfin là c'est ce que Pierre évoquait sur la différence de travail des photographes en fonction des commanditaires selon le journal qui passe commande pour alors c'est vrai qu'on a plus l'habitude, on a quand même une habitude aussi de collaboration régulière avec un certain nombre de photographes, donc les choses se font de manière assez fluide, assez simple, puisque les photojournalistes...
Soyons précis,
les photojournalistes ont l'habitude et connaissent les codes un peu de chaque titre avec lesquels ils peuvent collaborer. Donc ça simplifie quand même évidemment le travail au quotidien dans les commandes. C'est vrai que forcément en fonction des titres, on n'aura pas les mêmes impératifs, notamment sur le côté décalé sur certains reportages ou sur les mêmes, que ça soit d'ailleurs en termes de reportage ou en termes de portrait. C'est peut-être encore plus flagrant sur les commandes de portrait. Si tu partages.
Pierre Morel. Effectivement sur les portraits, alors il y a une part de créativité, j'ai presque envie de dire d'art, une démarche artistique.
Oui, en tout cas, il y a beaucoup plus d'implication du photographe par rapport à l'école traditionnelle du photojournalisme où il est convenu, et dans la déontologie, dans le journalisme de reportage, c'est qu'on essaye, quand bien même c'est toujours compliqué, de ne pas modifier la réalité, de rester vraiment en retrait de ce qui est en train de se passer. Bien sûr que notre présence sur un terrain d'opération, dans un reportage, dans un univers clos, modifie quand même le comportement des personnes qu'on photographie. C'est pour ça qu'on essaie de se faire oublier en reportage. C'est pour ça qu'il est important pour des journalistes, rédacteurs, rédactrices, photographes, de passer du temps avec leur sujet pour justement qu'ils oublient leur présence et qu'ils reviennent vraiment à une forme d'authenticité de leur réalité. Et dans le portrait, comme on est dans un cadre déjà d'une rencontre, souvent, enfin moi dans le portrait presse que vous pouvez voir, il y a vraiment une intervention. Il y a une intervention aussi au niveau des conditions, souvent de lumière. Par exemple, on va souvent apporter du flash, on va rééclairer, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez convenu et je pense, en tout cas j'espère, dans les journaux assez facile à identifier puisqu'on voit bien que les portraits posés sont identifiés comme tels, vus comme tels par rapport à l'image de reportage qui elle...
Ou parfois votre modèle prend des postures, vous faites travailler un peu dans l'espace. Là c'est aussi une manière d'accentuer peut-être le caractère de la personne, c'est ça que vous cherchez à rendre peut-être dans le portrait.
On peut chercher, chaque photographe va avoir un peu son envie, il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres, il faut que ça corresponde au sujet. On a à la fois les portraits des personnalités, donc c'est des gens qui ont l'habitude de leur image publique, donc on va essayer de casser un peu cette image, de chercher d'autres choses, et puis après on va avoir le portrait de personnes qui viennent pour leur situation, ça peut être des personnes en détresse, qui font un métier, qui vivent une situation, et donc là moi je pense, et beaucoup de photographes portraitistes documentaires vont chercher à essayer de retranscrire un vécu et puis pouvoir connecter, puisque la photo a cette fonction empathique très forte, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de visages et les photos iconiques sont souvent avec des êtres humains, la la quasi majorité d'entre elles, c'est bien sûr parce qu'on a besoin de s'identifier à ces photographies-là. Et il y a des portraits qui ont gagné des prix World Press, par exemple, chaque année, qui est la récompense un peu ultime du photojournaliste. Et c'était pas des images de reportage, mais c'était des portraits très forts qui permettent d'avoir une empathie. Et c'est aussi ce qu'on cherche. Après, le portrait tout seul ne marche pas. Et ça, c'est toujours important dans la photo. Ça a été évoqué. On pourra continuer à en parler, mais ça va avec du texte, ça va avec,
avec
une narration,
avec
un discours, voilà, qui permettent de dire qui est cette personne, où elle va, etc. Et les deux fonctionnent très bien ensemble. Et moi, ça m'est toujours très important. Voilà, le portrait seul pour le portrait seul, c'est pas très intéressant dans le travail de photojournalisme ou de raconter la réalité. Il faut qu'il y ait du texte, il faut qu'il puisse y avoir du son. Voilà, mais c'est un ensemble. Ça ne fonctionne pas tout seul.
Selvarin, vous êtes d'accord sur cette complémentarité finalement de l'écrit, de la photo, même si l'image domine malgré tout quand même.
Bien
dans
sûr,
notre
Pierre le disait très bien tout à l'heure. C'est vraiment l'essentiel est vraiment de raconter une histoire. Je pense pour tous les publics, d'autant plus pour les publics jeunes, parce que là, on essaie d'éviter tout ce qui est abstraction, etc. On est vraiment dans une information qui se raconte et qui est incarnée. Non, c'est très important.
C'est l'importance du récit. Jérémy Pelletier, je vous présentais avant que vous n'arriviez. Vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Alors, depuis 2 ans, hein, vous menez des travaux autour du complotisme. Avant de venir à cette situation des images trafiquées, on va en parler. J'imagine que dans vos travaux, tout ce qui est justement ce rapport à l'image est pris en compte. L'image a un poids important dans le monde d'aujourd'hui et notamment dans le monde de l'information.
L'image a évidemment un point important dans le monde d'aujourd'hui. Nous, dans les travaux qu'on mène sur les théories du complot, on a aussi un certain nombre de théories du complot qui reposent sur des images évidemment détournées. Beaucoup en France ont vu émerger ces théories et ce phénomène du complotisme au moment, vous savez, des attentats notamment de Charlie Hebdo, d'Hilbert Cacher et de Montrouge. Et très vite, ce sont des théories qui sont nées grâce notamment à des détournements d'images, à des photomontages. Je vous donnerai l'exemple, évidemment, vous savez, des rétroviseurs de différentes couleurs, notamment, qui étaient une photo de la voiture des deux terroristes. Donc, une partie, évidemment, des théories sur lesquelles on teste la population française repose sur des images qui sont détournées de leur fin. Et évidemment, une grosse partie, en tout cas, je dirais, historique du complotisme repose aussi sur des faux, sur des documents dont on veut essayer de montrer qu'il s'agit de documents, vous disiez le terme authentique, qu'il s'agit de documents vrais. Évidemment, l'exemple pur, c'est le protocole des sages de Sion, qu'on fait passer pour un document totalement officiel, rédigé par les Juifs, qui serait le plan de conquête du monde par les Juifs, qui effectivement s'est révélé comme un faux réalisé par les Russes pour faire porter une partie de la communauté juive et notamment des francs-maçons la responsabilité de tout un tas de choses.
Avant d'en venir justement à la façon dont les images sont détournées, trafiquées, il y a déjà aussi la façon dont on regarde les images peut-être. Vous parliez des rétroviseurs par exemple, là il fallait déjà, je vais pas dire un regard un petit peu perverti, mais qui voulait au moins tordre un peu la vérité, non?
Je vous parlais évidemment des attentats. On a vu l'essor du complotisme au moment des attentats parce que, en gros, le complotisme, je dirais le conspirationnisme, permet de rationaliser ce qui est de l'ordre de l'inimaginable, permet de rationaliser ce qui est de l'ordre de l'extraordinaire, ce qui est de l'ordre de l'impensable. Et donc, de fait, un certain nombre d'esprits, et on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est des profils bien spécifiques qui vont avoir tendance à glisser vers ces théories du complot, vers ce complotisme, un certain nombre d'individus pour tenter d'expliquer rationnellement des événements qui semblent totalement extraordinaires, inimaginables, vont justement avoir un regard particulier. Alors, d'aucuns vous disent que c'est le développement à l'excès de l'esprit critique. Évidemment, c'est sujet à débat, mais de fait, c'est pour tenter de rationaliser un événement extraordinaire, irrationnel, qu'on va tenter d'avoir un regard plus que critique, et donc déceler la moindre faille, déceler le moindre détail qui peut sembler surprenant d'une photo, d'une image. Et c'est pour ça que les théories, grâce évidemment aussi aux réseaux sociaux et donc à ce que permettent en termes de diffusion les réseaux sociaux, sont un vrai danger aujourd'hui. Et évidemment, on en parlera sans doute tout à l'heure.
Mais les images ne nous montrent pas forcément la réalité. On va en parler après la musique.
Un bébé encadré sur une étagère. un souvenir de vacances, un anniversaire. Une fille qui sourit coincée dans un sous-verre, un cadre fantaisie, un bord de mer. Et personne ne bouge dans la tribu des yeux rouges, tous différents, les mêmes photos pourtant, les grands derrière, les petits devant. Quelques photos de couples exposées comme des preuves, des photos de groupe, des amis qu'on connaisse. On vérifie d'ailleurs l'air de rien chez les autres, qu'on fait partie des leurs, qu'à côté de leur tête y a la nôtre. Sur la cheminée du salon des grands-parents, le casting tout entier de tous les petits enfants, les grands derrière, les petits devant, les petits devant. Les albums familiaux sont les manuels d'histoire qu'on regarde jamais, qu'on réserve au placard. Quand il était jeune, quand était petit, quand elle était enceinte, quand ils étaient en vie. Portrait de fin d'année, des gosses trop bien peignés, on dirait vraiment qu'ils ont mangé du ciment. Les grands derrière, les petits devant. La photo censurée, elle s'y trouvait pas belle, aussitôt développée, direct à la poubelle. Mignonne en paréo, au retour de la plage, elle enlèvera pas le haut. C'est dommage, le portrait qui fait rire, du permis de conduire, celui qui fait peur. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure, qu'elle soit en couleur ou bien en noir et blanc. On fait tous, quelle horreur, les mêmes photos tout le temps. Les grands derrière, les petits devant. Qu'est-ce qui nous pousse au fond à refaire à la chaîne tous les mêmes photos qu'on a vues par centaines? Des photos de monuments qui sont jamais très belles, mais c'est nous qui l'a fait, c'est pas la carte postale. Les photos de voyage à l'autre bout de la terre, les mêmes paysages, des mêmes belvédères. Nous sur un chameau, nous au ski en hiver, renoue sur un bateau et les épices du souk du Caire. Re-renoue à Pâques, il y a 2 ans déjà, re-re-renoue à la Toussaint à côté des Crottas. C'est vrai qu'on voit pas bien que la photo est mauvaise, mais par la salle de bain, je te jure, on devinait les falaises.
Les épices du souk du Caire, c'est l'album photo de Benabar qu'il chantait en 2005. Les images nous montrent-elles la vérité? C'est Grand Angle sur RCF. On en parle avec Estelle Varin, Pierre Morel, Jérémy Pelletier et Luc Rérol.
Grand Angle, Christophe Hénin.
On commençait à parler justement de ces regards un petit peu trompeurs sur certaines images. Il y a déjà aussi des images qui sont simplement, Jérémy Pelletier, comme ces photos de soucoupes volantes qu'on voit. Il y a des effets naturels qui sont mal interprétés. Ça, c'est déjà des fausses nouvelles qui circulent à travers l'image.
Alors absolument, il y a des effets et des phénomènes naturels qui sont mal interprétés et qui sont considérés comme des éléments justement non naturels, comme des éléments...
Alors, on n'a pas encore touché à la photo, mais il y a une fausse interprétation.
Absolument, il y a la théorie, vous savez, des chemtrails, qui est la théorie qui nous indique que les traînées blanches, vous savez, laissées par les avions dans le ciel, seraient pas laissées par les avions, mais seraient des produits volontairement déposés par les gouvernements pour intoxiquer la population, pour endormir la population. Et cette théorie-là fait assez florès. Vous savez que
l'une ça nous fait sourire, mais effectivement, dans votre dernière enquête, 15%
absolument,
des personnes interrogées.
15%, ça peut nous faire sourire, sauf que au début du mouvement des Gilets jaunes, vous savez, nous, on a été investigués, les groupes Facebook des Gilets jaunes, et on en parlera aussi sans doute tout à l'heure, parce que dans un certain nombre de groupes Facebook, ont émergé un certain nombre de théories du complot, et notamment au moment de l'attentat de Strasbourg. Mais pour revenir au chemtrails, cette théorie-là, qui justement indique que les traînées blanches laissées par les avions seraient volontairement déposées par les gouvernements pour endormir la population, elle a été citée par un certain nombre de figures médiatiques importantes du mouvement des Gilets jaunes, ce qui signifie très clairement que c'est pas une théorie totalement abracadabrantesque, qui est uniquement diffusée dans un certain nombre de petits forums, mais c'est quelque chose effectivement qui peut être diffusé dans un certain nombre de groupes d'individus. Donc voilà, ça, là on parlait des éléments naturels, des voilà des effets naturels, mais il y a également aussi des événements historiques, évidemment les théories autour du 11 septembre, mais également une théorie qui est très importante et qui commence maintenant à être ancienne, c'est la théorie sur la NASA qui ne serait jamais allée sur la Lune, et que justement on parlait d'images, on parlait de photos. Là, vous avez en gros 10% de la population française qui croit et qui est d'accord avec la théorie qui indique que justement la NASA n'est jamais allée sur la Lune et qu'elle a fabriqué de toutes pièces justement les images que tout le monde connaît pour faire croire à la population que les États-Unis avaient
Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a une fausse information qui circule, et pour accréditer une fausse information, on prend quand même la photo.
Ah, on prend quand même la photo.
On s'appuie sur la photo.
Exactement, ben on essaie de mélanger. En gros, une grande partie du complotisme et des théories du complot est là pour vous donner l'impression que, en gros, il y a le système, il y a l'élite qui tire les ficelles, et donc il y a un organe de presse officiel, ils ont des organes de presse officiels qui sont là pour vous endormir, pour vous montrer une réalité qui n'est pas la vraie réalité, et donc de fait ils vont utiliser les photos justement déposées et publiées parce que ces complotistes définissent comme étant l'élite, comme étant les organes officiels du pouvoir, pour justement s'appuyer et appuyer leur théorie du complot. Peut-être un deuxième élément sur le complotisme et la théorie du complot, ça repose aussi en grande partie sur le fait de dire on vous cache des choses que vous voyez dans votre vie quotidienne, ce que vous voyez dans la nature, les effets naturels que vous voyez tous les jours, l'actualité politique ou une partie des événements historiques qu'on vous a appris à l'école. Finalement, c'est plus compliqué que ça, et un petit groupe d'individus qui a tout intérêt à conserver le pouvoir, à conserver la domination dans le pays ou même dans le monde, a tiré les ficelles et donc vous a montré quelque chose qui n'est pas la réalité.
Voilà, on vous manipule, c'est un peu la démarche. On va voir aussi quel intérêt de ces fausses informations. Luc Rérol, alors on quitte un peu le domaine du photojournalisme, parce que a priori il n'y a pas de photos qui alimentent le complot, quoique peut-être c'est des photos justement du photojournalisme qui sont après détournées. Plus c'est gros, plus ça marche, ces photos.
Ce qui est surtout frappant ces dernières années, c'est de voir systématiquement, quand il y a un événement important qui se produit, arrive dans la foulée du faux, du complot. Bon, encore la semaine dernière avec le crash du Boeing en Éthiopie, où je sais pas quoi, 24 heures après, il y avait des vidéos là. Bon, alors c'est de l'image animée, mais bon, le problème est exactement le même, où c'était des faux. Mais en même temps, plus ça va, plus systématiquement il y a ces faux qui viennent sur, évidemment amplifiés par la diffusion par les réseaux. Mais en même temps, la presse et les médias, d'une manière générale, ont aussi pris en compte ce phénomène, et on a de plus en plus de rubriques, quels que soient les supports,
de décodage,
que ce soit dans la presse, même à la télé. Justement, la semaine dernière, pour la première fois, le journal de France 2, le 20h, a fait ce travail,
cette démarche
au sujet du crash en Éthiopie.
Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a aussi simplement, Jérémy Pelletier, on prend une photo d'agression dans un pays, il y a 2 ou 3 ans, et on la met simplement pour illustrer, par exemple, une manifestation des Gilets jaunes, quoique les photos sont déjà assez impressionnantes, c'est pas la peine de rajouter. Mais
bien sûr, mais je regardais, je feuilletais du coup la belle revue au Capi, et je vois qu'il y a à l'intérieur un titre, et à l'intérieur du dossier il y a un titre qui est attention, une photo ça se magouille, une image ça se magouille. Et donc de fait, on est dans ce phénomène là il y a un phénomène qui est intéressant aussi avec les réseaux sociaux, c'est la décontextualisation également des photos, et pas uniquement des photos. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup autour du dessin de presse. Vous savez, aujourd'hui, l'un des enjeux évidemment du dessin de presse et des dessinateurs de presse, vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi pour en parler, mais l'un des enjeux, c'est que un dessin de presse qui, il y a 20 ans, 30 ans, était publié, était fait pour un pays en particulier, qui a une culture particulière, qui a une culture politique et religieuse en particulier, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce dessin-là, évidemment, alors gagne en visibilité de façon colossale, de façon incroyable, mais de fait, peut être rapidement décontextualisé, et donc de fait créer rapidement un certain nombre de problématiques liées à la réception de ce dessin dans un certain nombre d'autres pays. Donc la décontextualisation des dessins de presse, c'est le même phénomène aussi. aussi pour les photos, les photos qui sont décontextualisées ou les photos qui sont également utilisées pour, c'est ce que vous disiez, illustrer un événement contemporain, alors que c'est des photos qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Donc c'est évidemment, ça nécessite beaucoup de temps quand on reçoit ce type d'image. Ça nécessite un certain, évidemment, esprit critique, mais une culture aussi de la prise de temps et de la prise de recul pour peut-être contextualiser aussi une photo dont on pourrait avoir l'impression qu'elle a été publiée il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est très difficile. Et finalement, il n'y a qu'un petit cénacle dans le pays qui est en capacité de prendre le temps et qui arrive à décrypter ça. Ouais.
Pierre Morel, quand vous réalisez des photos, il faut le dire aussi, il y a un travail aussi d'editing, hein, de préparation de la photo, peut-être de recadrage aussi. Ça, c'est aussi, alors c'est aussi dans une démarche de photojournalisme, donc de responsabilité de journalistes. À partir de quand on bascule vers de la manipulation de la photo? Pas vous, hein, bien
ça,
sûr.
Ça, je sais pas. Non, mais ça. Je travaille pas qu'en photojournalisme, donc je fais aussi des photos de communication, etc., qui n'ont pas les mêmes visées. Mais en tout cas, en photojournalisme, ce que je dis souvent, c'est que c'est une méthode. Et je dis ça aussi aux gens que je rencontre, parce que c'est une méthode que n'importe quel citoyen peut appliquer, parce que n'importe quel citoyen et citoyenne est en train de peut faire des photographies, les publier. Et donc la méthode journalistique, c'est assez simple, c'est d'essayer de croiser ses sources. Et quand on photographie un événement, une manifestation qui passe dans la rue, eh ben bon, je vais d'abord faire ma photo, mais je vais aussi aller discuter avec les gens. Pourquoi vous manifestez? Qui êtes-vous? Combien estimez-vous que vous êtes? J'essaye de croiser ses sources avec d'autres journalistes sur place, avec des dépêches que j'aurais pu lire. Donc j'essaye déjà de contextualiser l'événement que je suis en train de photographier. Et puis ensuite, moi, je vais faire plusieurs photos. Bien sûr, la photo est toujours une capture d'une partie de la réalité que je vais voir. C'est pour ça que j'essaie d'en faire plusieurs, pour essayer de montrer différentes choses. Mais il y a déjà un parti pris, ça c'est clair et net. C'est pour ça qu'il y a différents journaux, il y a différentes lignes éditoriales. Moi, je vais essayer d'être le plus honnête. C'est-à-dire, je crois pas en l'objectivité, mais je crois en l'honnêteté de la démarche. Donc, c'est photographier et puis ensuite mettre dans ce travail d'editing. Donc, j'ai plusieurs centaines de photos. Je vais en choisir une dizaine qui racontent quelque chose, qui sont pertinentes par rapport à l'événement, et je vais les contextualiser avec la légende, qui est quelque chose d'extrêmement important. Une légende doit pouvoir répondre à plusieurs questions en lisant le texte. Qui est sur la photo? Quoi? Où c'est? Quand c'est? Pourquoi il y a ça? Donc c'est ce qu'on appelle les 5 W en anglais. Et c'est ces questions-là qui vont permettre de donner au moins les informations de base, sans jugement en fait. Après, je peux faire un commentaire de jugement si je veux la mettre sur Facebook en disant c'est scandaleux.
Il y a beaucoup de monde,
Ce que j'encourage nos auditeurs et auditrices à faire, c'est vraiment, voilà, quand vous publiez, prenez le temps de faire cette démarche-là sur tout ce que vous faites. Parce que c'est important, notamment une photo peut devenir très vite virale. Et mon collègue a très bien dit, ça part tout de suite, c'est décontextualisé. Et cette légende va permettre ensuite de retrouver la source, si la photo est problématique, et puis de ne pas lui faire dire de contre-vérité, puisque la photo ne va servir finalement, on s'en rend bien compte, un discours ou un autre, elle va être toujours porteur du discours qu'on veut lui donner. Donc la légende permet au moins de contrecarrer ça, et c'est une démarche, une méthode journalistique.
Quand il y a des photos qui sont trafiquées ou lues de façon interprétée, mal interprétée, Estelle Varin, comment on fait? Je repense par exemple à la photo du petit Elan qu'on avait, cet enfant migrant qui était mort sur la plage. On a vu très vite après des photos montrant que, en fait, si on élargissait le cadre, il y avait beaucoup de monde autour, enfin bref. Et ça, c'est dès qu'il y a une mauvaise interprétation, très vite ça prend. Comment on fait par rapport à vos lecteurs pour dire non, mais attendez, ne vous laissez pas piéger?
C'est vrai que c'est difficile de remonter le courant, en fait. Hein. Ça va tellement vite et c'est tellement fort que résister à cette pression, c'est compliqué. Et c'est vraiment tout un travail d'éducation pour les plus jeunes, hein, évidemment, au départ, mais aussi pour les adultes que nous sommes ou qui lisent la presse aujourd'hui. C'est tellement facile aujourd'hui de trafiquer une photo, de la décontextualiser, de l'utiliser comme un outil de propagande, de lui accoler une fausse légende qui dira que la photo a été prise 5 ans plus tôt ou dans un autre cadre, etc. C'est extrêmement facile. C'est aussi extrêmement facile de trafiquer une photo aujourd'hui avec les outils qui sont à disposition, avec Photoshop, de rajouter un personnage, d'enlever un personnage. Bon, ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, les outils techniques sont tellement performants qu'on peut faire n'importe quoi avec une image. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Parce que on s'est, nous, vraiment posé la question quand on a commencé à réfléchir, à bâtir un dossier pour cette semaine, cette fameuse semaine de la presse à l'école, dans Okapi. il était évident qu'il fallait parler de ça. Il fallait décoder, il fallait décrypter, il faut mettre en garde, il faut donner les bons outils, justement les bons réflexes pour ça, bien reconnaître, je veux dire, ce qui fait la garantie d'une bonne photo de presse authentique, etc. Mais en même temps, à force de répéter et de publier des choses sur les fake news, sur les photos trafiquées, on finit par suggérer que tout ce travail, toute cette production photographique, c'est vraiment contre-productif.
On
scie vraiment la branche sur laquelle on est assis, et vraiment le but dans ce dossier, c'était d'utiliser, enfin sur les 10 pages, de peut-être consacrer 4 pages aux manipulations possibles, aux instruments de propagande, au trafic, etc. Mais de redire aux ados et à n'importe quel lecteur potentiel qu'il y a des journalistes et des photojournalistes qui font un travail absolument formidable, qui font des, enfin qui remplissent leur mission dans une déontologie totale, et que voilà, il faut pas non plus oublier, il faut montrer aussi le travail des professionnels dans leur qualité, dans leur mission, pour ensuite pouvoir dans un second temps décrypter les théories du complot, les magouilles, les trafics, etc. et ne pas mettre la lumière uniquement justement sur ces dérives, et ne pas oublier la réalité la qualité du travail au départ, quoi.
Jérémy Pelletier, parler du complotisme, ça risque d'éclabousser tout le monde, j'ai envie de dire, on jette le bébé avec l'eau du bain.
Alors non, je crois pas. Que non, hein. Je crois que enfin, les enquêtes. Non, mais je pense que les enquêtes.
Ne pas s'en parler, ça va pas. Et
oui,
en parler, c'est.
Bah, il faut trouver vraiment le juste équilibre.
À l'esprit critique.
Non, mais je pense que les enquêtes qu'on fait depuis maintenant 2 ans, c'est inédit en France de faire des enquêtes pour tester justement l'adhésion au complotisme de la population française. Donc je pense qu'on a révélé un certain nombre de chiffres qui ont un peu dérouté un certain nombre, notamment de responsables politiques, et notamment la première fois qu'on a publié notre enquête en 2018. Sauf que la deuxième vague, évidemment, qu'on a publiée en 2019. Un an est passé entre les deux enquêtes, et beaucoup de choses, évidemment, de l'ordre du complotisme sont arrivées dans l'actualité. Donc finalement, la vérité et la réalité nous a donné raison, et donc je pense que ça permet aussi d'être lucide sur la situation. Par contre, je rebondis sur ce que vous disiez, sur cette espèce finalement de suspicion généralisée qui de fait nous submerge une fois qu'on commence à ouvrir un journal, à ouvrir de la presse. Mais parce qu'on, de toute façon, pour rebondir à ce que vous dites, c'est lié à la défiance un peu générale, liée aux responsables politiques, liée à la politique d'une façon générale, liée à toutes les figures d'autorité, évidemment les politiques, les professeurs, la science, les lumières, et également évidemment les journalistes qui faisaient avant figure d'autorité. Et puis le dernier élément peut-être, c'est que maintenant tout le monde finalement peut être aussi son propre média. Ce qui me frappait dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que beaucoup, vous avez vu tous ces discours très critiques vis-à-vis de la presse qui indiquaient que la presse classique était de toute façon des personnes issues du système qui étaient là pour développer et diffuser la propagande du système. Et un certain nombre de Gilets jaunes disaient, mais nous, on n'a pas besoin de médias parce que nous sommes notre propre média. Donc les photos, finalement, c'est nous qui allons les prendre avec notre smartphone, c'est nous qui allons donner l'actualité, donner à voir l'actualité de ce qu'il se passe dans les manifestations du samedi. Et donc c'est aussi ça la difficulté aujourd'hui, je pense, pour la presse, c'est que la défiance un peu généralisée qui peut être
de toute autorité
qui peut être de mise aujourd'hui dans le pays se conjugue avec la possibilité offerte maintenant à tout un tas de citoyens de se considérer comme étant son propre média, et donc comme son propre producteur d'image aussi. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal.
memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes.
Photograph, c'est Ed Sheeran qui chante en 2014. Les images nous montrent-elles la vérité? C'est Grand Angle sur RCF. On en parle avec Estelle Varin, Pierre Morel, Jérémy Pelletier, Luc Rayrol.
Grand Angle, Christophe Hénin.
Alors, on a parlé donc de ce trafic d'images, que trafic, enfin en tout cas d'images trafiquées plutôt que de trafic d'images, des images trafiquées. Ben, chacun peut accéder à l'image, peut aussi les trafiquer. Pierre Morel, vous l'avez dit, vous avez rappelé que il y a une déontologie journalistique qui fait que les images peuvent être aussi des éléments. J'ai presque envie de dire de témoignage, peut-être. De ce qui peut se passer, de ce que vous pouvez voir.
C'est ce qu'on pourrait appeler l'image document, parce que l'image, elle peut être produite par des photojournalistes, mais aussi il y a des spationautes qui vont prendre des images de la Terre, donc elles ont une vocation vraiment très réelle, très technique, des cartes, il y a des images scientifiques, et puis il y a aussi des images judiciaires, hein, il y a photographie judiciaire, pour constater des scènes, et puis aussi quand on est témoin d'une scène, les images peuvent être versées au dossier, et moi c'est une expérience personnelle qui est un peu liée aussi à ma vie professionnelle, puisqu'il y a 10 ans, quand je commençais ce métier, à Grenoble, en mai 2007, je photographie une manifestation contre l'investiture du président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Il y a un acte de violence entre des policiers et des manifestants où une jeune femme est touchée à terre et par un éclat de grenade, donc ça fait écho à l'actualité récente, et c'était il y a 10 ans. Cette jeune femme était une passante, elle avait 23 ans, elle s'appelle Maud Caretta. Elle a perdu un œil ce soir-là, et moi j'étais le seul photographe, il était 22h dans le centre-ville de Grenoble, avoir pris des photos. J'avais 19 ans, j'étais pas encore professionnel à proprement parler, mais j'ai documenté toutes les images que j'avais prises avant et après l'événement pour montrer le contexte, montrer quelle était la situation, qu'il y avait un groupe de 20 manifestants. Donc j'ai écrit un témoignage d'une dizaine de pages avec mes photos et toujours contextualisé. J'ai envoyé ce témoignage ensuite le lendemain aux différents journaux, et puis on m'a mis en contact avec l'avocat de cette personne, et 10 ans après, parce que la procédure a été assez longue, après avoir témoigné auprès de la juge d'instruction, mes images se sont retrouvées dans un procès au tribunal correctionnel de Lyon, donc en octobre 2018, où j'ai été appelé à témoigner sur ces images, et je me suis rendu compte de la puissance finalement symbolique des images qui servent aussi à manifester la vérité dans le cadre du judiciaire, où là, et j'ai été même surpris que ce soit les parties civiles ou la défense n'ont pas attaqué la nature ou la crédibilité des images à aucun moment. Ça avait été acté. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise « Ah, t'es partisan », etc. Pas du tout. Peut-être parce qu'il y avait eu un travail de contextualisation de légende d'âge. Et on a vu les avocats regarder les photos, essayer d'identifier les policiers sur telles images. Et à partir des images, effectivement, dans des affaires judiciaires, et ça s'est vu dans d'autres cas, on peut essayer de prononcer des peines ou de rendre justice. Voilà. Et ça vient aussi avec, bien sûr, des témoignages oraux, etc. Donc ça, c'était une expérience que je trouvais assez forte et qui, finalement, aussi rassure sur le pouvoir de l'image. L'image document existe et existera encore à l'avenir.
Mais ça, Jérémy Pelletier, ça reste aussi dans notre mémoire collective. Il y a des images qui valent mieux que de longs discours.
Bien sûr, l'image de document et donc le pouvoir de l'image, je rebondis. Il y avait un très beau livre qui s'appelait Image malgré tout de Georges Didier Huberman qui avait été publié aux éditions de Minuit en 2004, qui montrait bien que l'image permet aussi de mieux saisir notre histoire. Vous vous souvenez, c'est l'histoire, finalement, il raconte comment ont été prises ces 4 photographies prises de façon clandestine en août 44 par des membres du Sonderkommando sur les camps d'Auschwitz-Birkenau. Ces 4 photos-là prises de façon clandestine montrent du coup, grâce à des images, ce qui était de l'ordre de l'inimaginable et ce qui était totalement fou pour le moment et pour le contexte dans lequel ont été prises ces photos, d'imaginer que ces corps dans la fosse puissent être pris du coup en photo pour donner un certain nombre d'éléments historiques importants, évidemment, pour la postérité de ces images. Et donc, rappeler aussi, voilà, le rôle des images, le rôle des photographies, le rôle de ces images documents, elles permettent évidemment de mieux saisir notre histoire, de raconter des choses sur notre histoire, et donc c'est tout l'enjeu aussi, je crois, de l'époque, c'est de valoriser la puissance et l'utilité scientifique et historique d'un certain nombre d'images.
Et pour Pierre Morel, pour continuer, en fait, ça m'amène à la réflexion, c'est comment on va raconter l'histoire au futur et se demander quelles images aussi aujourd'hui on voit dans notre société. Et c'est vrai que les photojournalistes ou les témoins vraiment en direct des choses produisent de l'image, mais l'essentiel des images qu'on voit aujourd'hui dans la rue, dans les magazines, à la télévision ou au cinéma sont des images construites, publicitaires, de communication. Aujourd'hui, on dit qu'il y a presque 6 communicants pour un journaliste. Donc, c'est tous des métiers aussi qui vont raconter le réel d'aujourd'hui et qui vont participer à notre mémoire historiographique collective. Et c'est important de se poser la question, je pense, de se dire est-ce que c'est ça qu'on veut aussi ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'autres regards visuels ? Est-ce qu'il est important de maintenir une production journalistique, de maintenir les outils pour la faire. Par exemple, la loi sur le secret des affaires qui avait été votée nous restreint dans notre capacité en tant que journaliste à aller sur certains lieux. Les services politiques, pendant les campagnes politiques, les photographes et les journalistes sont extrêmement tenus à l'écart de ce qui se passe. Et du coup, ce sont plein de choses.
Poules, hein, c'est ça,
voilà. On est très contrôlé finalement et ça nous limite finalement dans l'expression, dans la couverture de la réalité qu'on pourra faire aujourd'hui et pour le futur aussi. La vie quotidienne est extrêmement aussi dure à photographier dans des pays comme la France, puisqu'on a eu des problèmes de droit des tiers, de droit à l'image, etc. Donc c'est de se demander quels moyens on donne de temps, d'énergie aux journalistes pour aussi raconter la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. C'est aussi se méfier des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on peut publier beaucoup de choses, mais c'est aussi des réseaux où il y a encore une forme de censure. Il y a plusieurs thèmes qui ne sont pas possibles de montrer. Le corps féminin nu sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook pose encore beaucoup de problèmes. Donc ce ne sont pas les seuls endroits où on pourra avoir une vérité totale sur notre monde aujourd'hui. Et il va falloir aussi inventer ou garder des journaux et d'autres formes d'expression alternatives pour notre contenu
visuel. Ça nous invite à un regard critique. Luc Rérol, on parle de ces photos qui racontent quelque chose. Ça vous arrive aussi d'avoir des photos qui, où vous dites « mais ça, c'est incroyable, c'est une histoire à raconter ».
Oui, mais les histoires incroyables, enfin, aujourd'hui, je trouve que c'est justement, c'est d'ailleurs dans la suite de ce que tu disais, Pierre, c'est pas forcément l'extraordinaire au sens tel que merveilleux, tel qu'on pouvait l'entendre autrefois. C'est le hasard, mais il se trouve que cette semaine, dans Pèlerin, on publie le travail d'un photojournaliste, Vincent Jarousseau, qui a travaillé pendant 2 ans sur Denain, où on est... La ville de Denain, dans le Nord, depuis... Donc, c'est un travail qu'il a fait sur 2 ans, où on rencontre les habitants. Ce sont des témoignages, des histoires qu'il a suivies sur la durée. Et oui, là, effectivement, quand on voit ce travail, moi, là, je dis, c'est un travail extraordinaire aujourd'hui, compte tenu de la difficulté, de toutes les difficultés qui étaient énumérées à l'instant par Pierre. C'est tout le paradoxe de cette époque où on n'a jamais autant encadré, limité l'exercice de la profession à travers différents... Et en même temps, il y a une profusion d'images comme jamais on en a connu autrefois. C'est tout le paradoxe de l'époque.
L'image, Estelle Varin, dans Okapi, vous donnez une grande place à l'image. J'ai envie de faire le parallèle avec le complotisme aussi. Vous savez, et vous êtes aussi très vigilant parce que les jeunes sont assez sensibles à
on fait très attention du complot. Et justement, on leur rappelle souvent, hein, je veux dire des...
Voilà, en photo, sur les textes, sur les fausses infos.
Après, moi, je voudrais juste dire un mot, enfin, pour rendre hommage au festival hein, de photojournalisme comme Visa pour l'image, comme Arles. Tous les gens qui exposent le travail des photojournalistes aujourd'hui, c'est absolument formidable parce qu'on peut voir justement en exposé la totalité d'un reportage qu'on comprend dans sa totalité, qu'on comprend dans sa construction, dans sa beauté aussi. On peut voir un certain nombre de... Et là, je trouve que ça change le regard et on redécouvre ce que c'est que la réalité d'un magnifique reportage photo et non pas une photo isolée dans un journal, quelle que soit sa valeur. Donc ça redonne toute la valeur du métier et ça rend vraiment hommage aux professionnels. Et puis sinon, bah, y a plein d'outils hein, pour essayer de pas tomber dans le panneau. Il y a le décodex du Monde, il y a le site factuel de l'AFP. Il y a aujourd'hui des outils et des sites très très performants pour justement
qui
apprendre
de ressourcer
à décrypter les choses qui sont totalement manipulées.
Jérémy Pelletier, juste un mot. Pour la fin, il reste 30 secondes.
Très court, un dernier outil, c'est aussi donner du temps aux professeurs, et notamment les professeurs d'histoire, dont les programmes, je pense, sont beaucoup trop chargés et qui n'ont pas le temps, justement, de passer à du décryptage et à passer du temps, notamment, sur décryptage de propagande, d'images de propagande. Donc, je rajouterai un outil qui est donner du temps, et notamment aux professeurs d'histoire.
Prenez le temps en tout cas de regarder les images. Les images nous montrent-elles la vérité? On en a parlé avec Estelle Varin, Pierre Morel, Jérémy Pelletier et Luc Rérol. Alors le site de Pierre Morel, c'est très simple, on le retrouve facilement.
PierreMorel.net.
Voilà. Le site de la Fondation Jean Jaurès pour avoir cette étude de 2019, la deuxième édition.
C'est www.jean-jaurès.org.
Voilà, vous pourrez le retrouver. Et puis aussi le site d'Okapi.
Oui, blog.okapi.fr.
En tout cas, on le retrouve facilement avec le dossier sur la photo. Merci à Pierre Samanos qui était à la réalisation. Merci à vous quatre pour ce partage autour de la photo. Grand Angle, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur le site www.rcf.fr aussi, et puis sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, je vais y arriver. D'ici là, gardez les yeux ouverts.